Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Rotten sur Judaïque FM.
Sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous mensuel de l'Institut européen des musiques juives. Notre objectif, vous faire découvrir la richesse et la diversité des musiques juives d'hier mais aussi d'aujourd'hui. Et dans quelques jours, nous allons fêter la fête juive de Shavuot. Cette fête, comme toutes les autres, s'accompagne de solennités musicales que nous allons tâcher de décrypter ce soir. Pour nous aider dans cette plongée au sein des fêtes juives, nous allons retrouver notre spécialiste de la liturgie, le chanteur Jacques Arnold, qui est déjà venu sur cette antenne à de nombreuses reprises, nous parler de la musique donc des fêtes juives. Jacques Arnold, bonsoir.
Bonsoir Hervé.
Alors Jacques Arnold, d'abord, ça fait je crois plus de 7 ans que vous venez chaque semaine à l'Institut européen des musiques juives. Vous êtes en quelque sorte notre référent en ce qui concerne toutes les questions liées aux musiques liturgiques. Et vous avez une connaissance bien sûr profonde de la tradition ashkénaze, mais pas uniquement, car vous avez suivi les cours de liturgie musicale au séminaire israélite de France. Ce qu'on appelait à l'époque, je crois, le petit séminaire ou la section de pédagogie et de liturgie, c'est cela ?
Oui, c'est pas très loin ici de la radio d'ailleurs, c'était rue Vauquelin. Donc,
et cette section n'existe plus.
Non, hein. Elle était dirigée par justement Léon Elgazi, que l'on évoquera tout à l'heure, avec le grand rabbin Chili, qui était nos maîtres en quelque sorte, nos formateurs. Et là, ça n'existe plus, mais au sein de l'école rabbinique, les élèves reçoivent aujourd'hui une bonne connaissance de la manière dont il faut mener les offices dans leur communauté.
Donc vous avez appris non seulement le rite ashkénaze, mais il y avait également le rite séfarade. À l'époque, c'était le rite portugais,
c'était
d'ailleurs.
C'était la porte d'entrée au monde séfarade par la liturgie de la synagogue de la rue Buffo, la liturgie hispano-portugaise de Bayonne, de Bordeaux, que Roland Mossé, Zichrono Livracha, nous avait enseigné à l'époque. Oui.
Alors on pourrait consacrer, ce serait peut-être l'objet d'une prochaine émission, donc une émission sur ce petit séminaire ou cette école de liturgie et de pédagogie, une histoire passionnante. Mais il y a 5 ans, lorsque nous avons démarré cette émission, vous avez fait une des toutes premières émissions, la deuxième je crois, qui était sur la fête de Pessah, que l'on vient de quitter juste, et plus particulièrement d'ailleurs sur les musiques du Seder. Mais ce soir, donc, Jacques Arnold, vous avez préparé, avec le sérieux qui vous caractérise, une émission dédiée à Shavuot, émission que vous avez fort joliment intitulée « Shavuot, une entrée dans la 8e dimension ». C'est un sous-titre pour le moins énigmatique, on se croirait dans un film un peu hollywoodien, mais vous allez nous expliquer au cours de cette émission à quelle dimension vous faites allusion. Il faut dire que lorsque l'on évoque les fêtes juives, on associe souvent leur célébration à de nombreux préparatifs, tels que ceux de Pessah ou Sukkot, à également des symboles très évocateurs, tels que l'allumage de la Hanoukia, la célébration donc, du Seder de Pâques, la joie débordante de Pourim, ou la sonnerie austère du chauffard. Et en ce qui concerne les airs plus spécifiquement, les airs des prières, les chants, des intonations propres à ces fêtes, il y a là également des traditions spécifiques. Je pense notamment aux liturgies de Rosh Hashanah et Yom Kippour et à ces chants de prière intenses qui s'y rattachent, comme le Kol Nidre, bien sûr, et puis bien sûr Neila, bien sûr, les chants de Neila. Mais on pourrait penser que la prochaine fête de Shavuot que nous allons célébrer dans quelques jours n'a rien de tout cela. Donc cette fête est pourtant considérée comme l'une des grandes fêtes du calendrier juif. Elle est prescrite par la Torah au même titre que Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot ou Pessah. Mais n'ayant pas de célébration spécifique, elle donne l'impression d'être une solennité un petit peu à part, singulière à plus d'un titre. Vous me dites même presque originale. Alors, ma première question, en quoi cette fête de Pentecôte est-elle... Alors, je vais faire un petit peu comme l'enfant lors du Seder de Pessah. Est-elle différente des autres et quelles sont donc les raisons de cette particularité ou cette différence?
Oui, en effet, pour Shavuot, il n'y a pas de grand symbole qui marque la fête. C'est une des trois fêtes de pèlerinage. Elle est mentionnée, bien sûr, dans la Torah. Mais ce qui la caractérise fortement, c'est le récit de la révélation au Sinaï avec la lecture, dès le premier jour, dans le livre de l'Exode, des 10 paroles, des Aseret Adiberot, des 10 commandements, comme on dit. Et en fait, Shavuot n'a pas de célébration majeure, comme vous l'avez dit, mais il y a même pas d'ailleurs de préparation culinaire particulière, hein. Il n'y a pas de plat particulier.
Vous voulez dire une fête juive sans plat particulier?
Peut-être de ce qui est lacté, mais bon, ce n'est qu'une parenthèse. Toutefois, on ne peut pas considérer Shavuot comme une fête banale. Elle a des caractéristiques qui lui sont propres. Et c'est peut-être en cela que, puisque nous faisons une émission qui est axée sur la musique, c'est peut-être dans la musique, dans les intonations propres à cette fête, que l'on peut trouver une particularité. Et c'est là aussi quelque chose d'important, c'est que quand une fête est célébrée, surtout à la synagogue, surtout par les prières et les piyutim et les chants qui l'accompagnent, il faut donner à ces chants la caractéristique propre de la fête. Et on va tout de suite le voir avec un exemple que nous avons relevé, que nous avons retrouvé d'ailleurs dans une bande magnétique qui est celle de l'émission Écoute Israël, qui était diffusée dans les années 60 à l'ORTF, sur les postes nationaux. Et c'est Léon Algazi qui dirigeait cette émission. Et on va écouter un extrait justement de l'intonation, de l'air particulier de Shavuot sur la mélodie du Hallel, c'est-à-dire de la louange, qui est d'ailleurs la prière qui revient aux grandes fêtes Pessah, Shavuot et Sukkot. Écoutons cette intonation très 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 particulière qui s'y rattache.
Nous venons d'entendre « Odola Donai Kitov Kilolam Razdo », un des psaumes du Hallel dans un enregistrement tout à fait historique des années 60. Comme vous l'avez dit, Jacques Arnold, c'est un enregistrement de la radio, de l'émission de Léon Algazi. C'est lui-même qui d'ailleurs dirige le chœur. Et le soliste n'était pas moins que, je pense, Émile Katzmann. Le chœur était à cette époque un chœur mixte. C'est toute une époque qui n'existe plus aujourd'hui. Donc c'est assez d'émotion que nous entendons ce morceau-là. Et alors donc, ce morceau, quelle est sa place exactement dans la liturgie de Shavuot, et notamment par rapport au fait qu'il donne un air, en fait, est-ce que vous pourriez nous expliquer?
Là, cet extrait était tiré du Hallel, de la louange qui est prononcée donc le matin de la fête, les deux matins de la fête, mais on retrouve le même air incrusté, si je puis dire, déjà dans l'office du soir, dans l'office de Ma'ariv, dans Malchutecha, Ra'uvanecha, Bokeayam, etc., dans ces phrases qui amorcent l'office de la veille de la fête, on retrouve le même air. Je l'ai entendu recomposé ou réharmonisé, même à la Grande Synagogue de Jérusalem, par Eli Yaffe, qui utilisait cet air qui provient de la liturgie, entre guillemets, de la liturgie ashkenaz française. Hein. Ce ne sont pas des airs connus dans toute l'Europe centrale, mais c'est un air qui est très évocateur, même un petit peu nostalgique. Il y en a un pour Pessah, il y en a un pour Sukkot et pour Shavuot, et bien entendu, pour les grandes fêtes, Rosh Hashanah et Kippour, on a des intonations qui, dès le début de l'office du matin, dès que l'on est à Gibor, la Netzach, dès que l'on est à Shochen Ad, quand on a fini Nishmat Kol Chai, on entend la mélodie par le Chazan, on sait que l'on est dans cette atmosphère propre à la fête, on est vraiment enveloppé par une mélodie qui nous met en condition. Et c'est cela qui est très fort, je dirais, dans le rôle du Chazan, c'est de savoir placer les fidèles dans une atmosphère particulière, dans quelque chose qui est spécifique à la fête. Et c'est en cela que Shavuot joue pleinement son rôle. Il n'y a pas d'autre symbole, mais au moins la musique, elle est là pour nous donner cette grande empreinte de la fête.
Oui, moi je trouve ça assez fascinant, cette histoire d'air propre à chaque fête, ou comme une espèce de marqueur musical en fait. Presque, c'est pas un leitmotiv au sens wagnérien du terme, où il y aurait une mélodie propre à chaque personnage, mais quand même il y a une mélodie, enfin, ou quelques mélodies qui sont propres à des fêtes spécifiques et qui vont circuler tout au long des fêtes et qui vont faire que pour les fidèles, ils vont se retrouver musicalement à travers ces mélodies qui reviennent. Ils seront instantanément, à quel moment de l'année liturgique ils sont.
C'est cette observation qui permet de dire que autant que l'on peut de ne pas introduire, j'entends parfois des mélodies, des airs du folklore ou des airs de tubes modernes placés dans tel ou tel office, ou même simplement l'air de Maosour que l'on retrouve dans le Hallel à toutes les circonstances, ce n'est pas, je dirais, la bonne formule. Bon, je ne veux pas être le critique un petit peu rétrograde, mais il faut savoir donner à chaque fête ce qui lui est propre, ce qui lui appartient en propre.
Est-ce ça qu'on appelle le noussar, en
fait? Oui, le noussar en hébreu d'aujourd'hui, c'est la formule. Hein, noussra, noussar, c'est la formule. Et il faut en effet respecter. Il y a même des formules, vous savez, pour même l'office du samedi soir hein, à la synagogue, eh bien, il y a dans le rite ashkenaz, il y a sur la répétition de l'Amida, notamment sur Ata Echad Veshimcha Echad Omigam Echad Nanay Nanay Nanay, il y a une intonation particulière, il y a une intonation pour chaque circonstance. Ça fait qu'on se ressent dans une sorte de conditionnement, je dirais, de la prière à ce moment-là.
Bien. Alors revenons aux particularités de la fête de Shavuot elle-même, qui dure donc 2 jours, les 6 et 7 Sevan, et c'est donc une des 3 fêtes de pèlerinage, et sa particularité quand même, c'est que sa date n'est pas indiquée dans la Torah, si ce n'est peut-être qu'en tant que fête des semaines, puisque Shavuot signifie en hébreu les semaines, justement. Alors, comment ça se fait, tout ça?
En effet, dans le texte de la Torah, cette fête apparaît d'abord sous plusieurs noms, on va les préciser, donc on a dit Shavuot, c'est aussi la fête des Bikurim, la fête des prémices, mais elle est Shavuot, le mot Shavuot, la racine de ce mot, c'est aussi le serment, car en effet, le peuple d'Israël à cette date un peu supposée, parce que la Torah ne donne pas la date de l'événement, elle donne simplement le troisième mois, le mois de Sivan, au cours duquel les Hébreux se sont approchés de la montagne du Sinaï. Et ce n'est que dans le livre du Lévitique, au chapitre 23, qu'à la fin de la mention du Homer, c'est-à-dire l'offrande qui était accomplie depuis Pessah, depuis le deuxième jour de Pessah jusqu'à le Shavuot, jusqu'au mois de Sivan, il y avait une offrande d'orge qui provenait de la récolte de l'orge qui commençait dès le lendemain de Pessah. Donc, à partir du compte de ces jours, de ces 7 fois 7 jours, de ces 7 semaines, on atteint Shavuot. Il n'y a pas de date donnée, il y a simplement comme un aboutissement qui se fait, et on arrive au bout du 50e jour, et c'est pour cela, je dirais, qu'on est dans la 8e dimension. Vous me demandez quelle dimension ? Ce n'est pas la dimension spatiale ou de la distance.
Vous allez décevoir mon fils, ça, c'est pas Star Wars, alors, du tout. Hein.
C'est pas du tout la guerre des étoiles. Là, on reste uniquement dans la dimension du temps, quoique l'espace et le temps sont deux notions bien proches, mais on dépasse. Shavuot, c'est la fête du dépassement. Mm-hmm. On entre de plein pied dans la 8e semaine, comme dans les choses qui ont trait au temps dans le judaïsme. Il y a souvent le cycle des 7 jours de la semaine, des 7 années sabbatiques. Il y a très souvent, et des 7 années sabbatiques multipliées par 7 qui donnent l'année jubilaire, etc. Donc, Shavuot nous fait entrer dans ce temps numéro 8, dans ce temps 8e, on va l'appeler comme cela, qui est le temps du dépassement. Le cycle de 7, c'est le cycle normal qui se déroule avec une certaine régularité, pourrait-on dire. Mais Shavuot, c'est le temps d'après. Et une fois que les Hébreux sont sortis d'Égypte, ils ont remonté, non pas seulement le temps, mais ils ont remonté toutes les étapes de leur impureté qu'ils avaient contractées en Égypte. Ils s'en sont extirpés d'une certaine manière pour arriver dans un état parfait, on pourrait dire, au Mont Sinaï. Donc, Shavuot, c'est la conclusion du Homer. Et pendant les jours qui ont précédé, on a compté chaque soir le Homer pour gravir échelon par échelon, étape par étape, marche par marche, ce temps important qui était celui, donc, le Homer de la récolte de l'orge. Et on arrive à Shavuot, à la récolte du froment, à la récolte du blé pour obtenir les deux pains qui seront d'ailleurs offerts au moment de Shavuot. Alors on pourrait peut-être retrouver avec le Homer.
Oui, puis on va faire une pause musicale, oui. Peut-être une seconde pause musicale avec un air justement de la prière des fêtes qui est mise en musique à la manière de Shlomo Carlebar. Il s'agit du verset Bnei Vetra qui est tiré de l'album de Chaim David, Reconstruis ta maison.
Ich kann nicht mehr,
Nous venons d'entendre un extrait donc de Bnei Benevesra, chanté par Chaim David. Alors Benevesra, ça veut dire reconstruis ta maison. De quelle maison s'agit-il, Jacques Arnaud ?
Il s'agit bien sûr du temple, que c'est, ce passage est extrait de la prière de la Amida des trois fêtes. On demande à Dieu de reconstruire sa maison afin que nous puissions y renouveler l'offrande des sacrifices, d'y célébrer tout ce qui ne peut se faire que dans le temple. Et donc cela a été chanté sous une musique assez entraînante pour justement faire en sorte que tout ce que l'on célèbre dans ces fêtes, que ce soit le conte du Homer pour lequel on va écouter tout de suite les bénédictions dans un instant, pour que tout ce que nous accomplissons, tous les gestes rituels que nous les faisons, la bénédiction des Kohanim, le fait de faire que les prêtres, comme dans le temple, les prêtres prononçaient la bénédiction sacerdotale, tout ce que nous faisons, nous, dans nos petite synagogue, je dirais, eh bien, rappelle, soit une réminiscence de ce qui se faisait dans le temple, mais pas seulement comme un vieux souvenir que l'on traîne depuis 2000 millénaires, mais quelque chose qui puisse se refaire, se réaccomplir dans un avenir que nous espérons proche. Et c'est cela qui fait que nous persistons à accomplir les rites, comme le conte du Homer, on ne peut pas offrir d'orge. Personne ne peut prendre son orge et l'emmener, ou ses prémices, et les emmener au Beth Amikdash, au temple. Mais au moins, on garde un souvenir et on accomplit ce geste, même quelque peu diminué, mais dans la perspective de Bnei Betra Kevatrila, reconstruis ta maison comme ce fut le cas dans le passé, et on va le faire aussi avec la même intention pour la Sfirat HaOmer dans les jours qui précèdent Shavuot.
Justement, donc cette Sfirat HaOmer, donc comme vous l'avez dit, on compte chaque jour. Je crois qu'on compte d'ailleurs durant la nuit. Normalement, on compte les jours. Et parfois, si on n'a pas pu le faire, on le fait le matin. Mais il ne faut pas. Il y a des rituels assez précis sur le compte du HaOmer.
Bien sûr, pour l'accomplir juste à l'entrée du jour suivant, qui se trouve donc dès la sortie des étoiles. Et donc c'est à ce moment-là qu'on fait avec la bénédiction. Si on a raté pour une raison ou une autre, on a une solution de rattrapage qui est durant toute la journée de prononcer le jour, enfin le nombre qui correspond au jour et le nombre des semaines durant toute la journée. Et puis le soir, on pourra à nouveau, évidemment, prononcer avec la bénédiction. Si on a vraiment tout raté, il ne nous reste plus que simplement à formuler le chiffre sans la bénédiction. Mais là, on va écouter la bénédiction.
Alors, on va donc écouter cette bénédiction, Sfirat HaOmer, interprétée ici par Jacob Kusevitsky. C'est un quoi, le frère de Moshe Kusevitsky.
Le frère de Moshe, ils étaient plusieurs frères, ils étaient quatre, je crois. Moshe a été celui qui a eu la carrière la plus grande, la plus importante, mais ses frères aux États-Unis tenaient une bonne place dans la Chazanout des années, au milieu du siècle dernier, dans les années 40-50.
Et puis donc la clôture de cette sfirat, c'est donc le Ribono Shel Olam, je crois, qui exprime l'espoir d'obtenir du maître du monde l'influence bénéfique sur notre âme, la sainteté, la pureté. C'est ça que l'on recherche en chantant cette prière que l'on écoute dès à présent, donc un montage de ces deux prières.
Oh.
Nous venons d'entendre successivement la bénédiction donc du conte de l'Homère interprété par Jacob Kusevitsky, suivi donc du Rimono Shel Olam, qui a été lui interprété par Leib Levalman, j'avais pas donné son nom, un grand monsieur, un grand chazan également américain, de prières d'une intensité, d'une ferveur incroyable. Quand vous disiez tout à l'heure, on disait que peut-être Shavuot n'avait pas la même intensité que certaines prières comme le Kol Nidre, mais là il y a vraiment quelque chose qui se dégage.
Là, les bénédictions provenaient d'un enregistrement qui a été fait en public, en direct, hein, qui a été fait probablement un soir dans les semaines qui précèdent Shavuot, et dans une synagogue, et on entend la kavana, c'est-à-dire une véritable portée de prière très forte par laquelle on veut montrer que ce conte, ce n'est pas un comptage de jours 1, 2, 3, 4, 5. D'ailleurs, entre parenthèses, ce n'est pas un compte à rebours, c'est une suite de jours qui va en progressant, c'est-à-dire on monte par la Sfirata Omer, on s'élève aussi dans les séphirotes, dans les différents stades qui marquent cette progression. Et donc le Chazan ici le fait avec un très très grand une très très grande attention. Et ensuite le Ribono Shel Olam de Waldman aussi nous montre que on se sert de cette Sfirata Omer pour se purifier, pour essayer de ne pas régresser, d'avancer en vue du don de la Torah que va constituer la fête de Shavuot. Et alors bien sûr là il y a beaucoup de particularités qui se rattachent à Shavuot. On sait que ce don de la Torah dont on parlera dans un petit moment, c'est un moment où tout le peuple d'Israël s'est trouvé réuni au pied du mont Sinaï. C'est un moment au cours duquel il y a eu vraiment l'acceptation de la loi. Moïse, avant que les Hébreux ne sortent, il avait demandé afin qu'ils servent, il demandait la libération afin que les Hébreux puissent servir Dieu au pied de la montagne. Et bien voilà, maintenant c'est réalisé. Maintenant c'est donc Shavuot qui va donner cette occasion de le marquer, de le faire, de le réaliser pleinement.
Et alors, donc vous dites que c'est qu'on compte en fait, on compte jusqu'au 50e jour, et il y a la clôture de ces 50e jours, c'est la fête de Shavuot, donc le don de la Torah. Mais si on suivait la même logique, Shmini Atzeret, qui est une fête qui, elle, clôture donc la fête de Sukkot, elle devrait tomber aussi 49 jours après Sukkot. Alors pourquoi on ne fait pas la même chose pour cette fête de Shmini Atzeret? Enfin, voilà, c'est un petit peu...
En effet, Atzeret, c'est un des noms de la fête de Shavuot, qui est précisé, bien évidemment, dans la Torah. Atzeret, on pourrait dire, c'est un stop, hein, Atzor, c'est le fait que ça s'arrête là. Alors, pourquoi est-ce que Shmini Atzeret, qui est en fait le stop, qui est la clôture des jours de Soukhot. Pourquoi que 7 jours ? Ça aurait dû être 7 semaines, là aussi. Mais on serait tombé dans la saison d'hiver. Et nos sages font remarquer que Dieu a voulu faire en sorte que toutes nos fêtes, toutes nos célébrations à caractère agricole, liées à la terre d'Israël par conséquent, interviennent dans la saison qui n'est pas celle des pluies. Donc, Shmini Atzeret, c'est la limite de l'automne avant de tomber dans l'hiver. Donc, on pourrait dire que Atzeret est précipité, Shmini Atzeret, pardon, est précipité juste après Soukhot pour ne pas tomber au mois de Kislev ou à je ne sais quel moment, ou à 7 semaines plus tard. Pour Shavuot, 7 semaines après Pessah, on est encore en plein été et on est déjà en plein été et il y a, commence déjà les récoltes qui vont donner les prémices, les prémices, les bikurim. Et contrairement à ce que l'on pense, Shavuot, ce n'est pas la fête où l'on apportait les prémices. On en parlera tout à l'heure à propos de ce qui se faisait en Israël dans les kibbutzim. Ce n'est pas la fête des prémices au cours de laquelle s'effectuait cette venue à Jérusalem. Elle pouvait commencer à Shavuot, mais elle se poursuivait tout l'été au fur et à mesure de la récolte. Tel produit, la date, il s'agit des 7 fruits d'Israël, la date, la figue, les grenades, le raisin, l'orge et le froment. Donc toutes ces récoltes se faisaient au moment où les fruits étaient où apparaissaient. Donc on prenait la première grenade visible, la première olive détachable, utilisable, récoltable, et on l'amenait dans le temple. Donc ça se faisait sur une longue période qui démarrait à Shavuot. Donc voilà, le mot Atzeret, c'est le moment aussi, en hébreu moderne, Atzeret, c'est une sorte de colloque, une sorte de moment où l'on se retrouve tous, une convention, n'est-ce pas, la convention américaine. Voilà. Donc c'est un moment de grande réunion, de quelque chose de très collectif qui semble émaner de tout le peuple dans tout son entier. Donc c'était les agriculteurs, ils étaient tous amenés à accomplir le geste particulier qui démarrait à Shavuot et qui se poursuivait après.
Alors, cette fête, en principe, est l'aboutissement, c'est les prémices, la moisson, c'est quand même quelque chose de joyeux, parce que c'est l'assurance de pouvoir manger, vivre de sa récolte. Et pourtant, on rattache parfois à cette période de l'Homère la notion de deuil. Je crois qu'on ne célèbre pas de mariage, il me semble, même durant cette période. Pourquoi ?
En fait, là, on change tout à fait de registre, parce que jusque-là, nous avons évoqué le Homère, Shavuot, les fêtes de pèlerinage, comme étant les joies, les grandes fêtes joyeuses du calendrier. Alors, la suite des temps, quand on était sous l'occupation romaine, quand il y a eu les persécutions romaines qui empêchaient l'étude de la Torah, il y a eu aussi au Moyen-Âge, dans la période des croisades, de grands malheurs qui se sont abattus sur les communautés, sur le peuple d'Israël. Cette période, et juste simplement 33 jours de cette période que chacun célèbre à sa manière, il y en a qui commencent le premier Iyar, il y en a qui commencent dès Pessah, peu importe, on marque certains jours en diminuant la joie, c'est-à-dire ne célébrant pas de mariage, n'accomplissant pas de cérémonies joyeuses, de musique instrumentale, mais on peut chanter quand même, on chante, a cappella, on peut chanter. Donc on diminue la joie pendant ces quelques jours, ça va jusqu'à peu près Shavuot, certains s'arrêtent au 33e jour du Homer, au moment de la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Quoi qu'il en soit, on marque un temps de deuil, mais je dirais, ce temps de deuil d'ailleurs est rompu, et heureusement rompu, par Yom HaTzmaout, par le jour de l'indépendance d'Israël, et par l'anniversaire de la réunification de Jérusalem à la fin du mois de Iyar, qui sont deux dates modernes qui montrent qu'on peut avoir une période même triste et qui trouve quand même des perspectives heureuses, qu'il faut marquer, qu'il faut absolument en faire. Mais il ne faut pas non plus considérer le Homer comme quelque chose de triste. Au contraire, c'est un moment qui était pour l'agriculteur, pour les récoltes, pour le temple de Jérusalem. C'était un moment très fort, très, très grand.
Alors, il ne faut pas oublier que l'aboutissement, c'est donc le don de la Torah sur le mont Sinaï. On en a dit déjà quelques mots, mais vous m'avez dit tout à l'heure en aparté, et c'était assez passionnant, que les sages ont enseigné quelque chose sur le don de cette Torah à partir du mot gravé, en fait. Est-ce que vous pourriez revenir
sur
cette...
Dans les Pirkei Avot, que l'on a lu d'ailleurs, ce texte des Maximes des Pères qui a été lu pendant les semaines qui ont précédé Shavuot, chaque samedi après-midi, on en a lu. Et il y a dans ce traité de la Mishnah, il y a un passage dans lequel Dieu veut nous prendre, Dieu dit que je vous prendrai pour devenir mon peuple au mont Sinaï, et ce terme s'applique aux tables de pierre du décalogue gravées, et il est dit « les tables étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture était écriture de Dieu gravée sur les tables ». C'était gravé, les paroles du décalogue étaient gravées sur les tables. Alors, l'enseignement de nos sages sur ce verset nous invite, c'est une invitation à permuter un petit peu les voyelles, à les changer, comme souvent nos sages le font, pour utiliser simplement les consonnes et donc d'obtenir le mot chérout. C'est-à-dire pour faire un petit jeu de mots entre chérout, gravé comme quelque chose d'immuable, comme quelque chose de rigide, de fixé, plutôt que de le considérer ainsi, de faire plutôt jouer le mot chérout qui veut dire libre, qui veut dire liberté, comme pour nous signifier que la Torah doit être vue et considérée comme un moyen de s'affranchir véritablement du joug des passions et des doutes qui pourraient s'emparer de nous, et qu'elle ne doit pas être perçue comme quelque chose qui exercerait une emprise ou une entrave pour l'homme juif. C'est-à-dire qu'on ne doit pas considérer la Torah comme un carcan, mais on doit la considérer comme le moyen d'exprimer notre parfaite liberté, liberté de s'échapper de nos contraintes personnelles, de nos tendances, de nos envies personnelles, et de considérer la Torah comme un moyen d'accéder à cette liberté de chérout.
Alors, ce don de la Torah, c'est, on l'a dit, quand même un moment de joie. Et comme le temps passe très vite, je vous propose d'écouter tout de suite notre quatrième pause musicale, interprétée ici par Johamar Ismach Moshe. Et Moshe se réjouira, et on comprend bien pourquoi ce don de la Torah, nous l'écoutons dès maintenant. Un extrait de Ismach Moshe, interprété ici par le grand Johamar. Jacques Arnold, est-ce qu'il y a des traditions dans le judaïsme qui sont soulignées ainsi la place accordée au don de la loi, des traditions
de marquantes? Oui, donc on disait que Shavuot ne comporte pas de grande symbolique, mais il faut quand même souligner. D'ailleurs, on a écouté Ismach Moshe, qui n'est pas de la liturgie de Shavuot. Hein. On a pris un passage qui est du Shacharit de Shabbat, dans lequel on dit « Moshe s'est réjoui en recevant la Torah, mais surtout pour le Shabbat qu'elle contient ». Il y a en effet la coutume qui consiste, bien sûr, à veiller toute la nuit de Shavuot. C'est le Tikkun les Shavuot, par une lecture ou une étude des textes pour compenser en quelque sorte le manquement des Hébreux qui, au moment du don de la Torah, eh bien, ont un petit peu somnolé plus qu'il ne fallait. Et on veut montrer le fait de s'accaparer de la Torah en l'étudiant intensément dans la nuit qui précède le premier jour de Shavuot. On a aussi l'habitude de considérer la fête de Shavuot comme le mariage entre Dieu et Israël avec le parchemin de la Torah qui est le parchemin de la Ketouba. On a aussi la coutume qui consiste à consommer des mets lactés pendant Shavuot, qui est une toute petite habitude pour rappeler le fait que Chalav, c'est 40, c'est comme les 40 jours où Moïse est resté sur le Sinaï, pour aussi rappeler que Mincha Hadasha Lachem Beshavuot Echem, c'est une nouvelle offrande pour Dieu au moment de Shavuot. Ce sont les initiales de Mechalav, du mot lait. Donc on mange des laits lactés, des fromages, pour rappeler aussi que le Mont Sinaï est appelé Harim Gabnounim, comme des montagnes qui sont élevées, que pareil une sorte de mets lactés qui serait la symbolique des montagnes. Donc voilà, toutes ces raisons-là font qu'il y a cette habitude, mais en fait, on peut le dire, Shavuot n'a pas beaucoup, beaucoup de symboles particuliers.
Alors à Shavuot, on chante aussi des piyutim, des poésies religieuses, et il y en a une que vous nous proposez tout de suite, et qui, l'Otarmod, qui veut dire, si je ne me trompe pas, tu ne convoiteras pas. Il s'agit d'ailleurs du dernier des 10 commandements, donc on est tout à fait dans le sujet. On va l'entendre interpréter ici par le grand Yosel Rosenblatt. Un extrait du 10e commandement, tu ne convoiteras pas, l'Otarmos de Yosele, chanté par Yosele Rosenblatt. Alors vous nous parliez, Jacques Arnold, des différentes coutumes qu'on en trouvait à cette fête de Shavuot, et il y en a d'autres, je crois.
Oui, en effet. Donc il y a bien sûr des lectures qui sont incorporées dans la prière. Là, on vient d'entendre un extrait de l'Otarmod. L'Otarmod, c'est le 10e commandement. Tu ne convoiteras pas ce qui est à ton prochain. C'est le commandement qui conclut les dix autres. Comme il est, on pourrait dire, la source de toutes les autres fautes que l'on pourrait accomplir, que l'on pourrait commettre, puisque avec la convoitise, on peut tomber dans le vol, on peut tomber dans l'envie de ceci ou dans l'envie de cela. Par conséquent, le Razan Rosenblatt que nous venons d'entendre met l'accent sur ce Lotarmot, tu ne convoiteras pas, qui est dans un piyout du Yotzer du premier jour de Shavuot. Et donc, il le chante d'une manière un petit peu théâtrale, c'était le propre de Rosenblatt. Mais il y a d'autres textes qui sont lus à Shavuot. Dans les communautés séfarades, on a les Hazaharot, qui sont exactement une paraphrase des 10 commandements qu'avait fait Shlomo Ibn Gabirol, qui avait composé. On le lit, je crois, dans l'après-midi de Shavuot. Il y a aussi la Ketouba, qui est l'acte de mariage qu'a composé Israël, Rabbi Israël Nadjara, qui est un grand rabbin séfarade et qui est lu comme un acte de mariage entre Dieu et son peuple d'Israël, contracté au moment de Shavuot. Et il y a bien entendu la lecture du livre de Ruth, du livre qui est tiré des hagiographes, qui nous raconte l'itinéraire de Ruth, qui, elle, s'est rapprochée de la Torah et qui a adopté pleinement et entièrement la croyance, la foi en Israël pour épouser Boaz et donner naissance par la suite dans sa descendance à David, qui sera le porteur du Mashiach, c'est-à-dire on entre dans la huitième dimension, c'est-à-dire dans l'ère messianique que déjà Moïse, qui lui aussi a été sauvé des eaux, a été placé au mois de Sivan, sur le Nil, au moment de Shavuot.
Et puis, je crois, il y a la lecture des Hakdumos, comme vous dites, ou Hakdamot. Alors, c'est quoi, ça veut dire quoi?
Alors, ça, c'est dans le rite Ashkenaz. C'est un texte qui a été composé par Rabbi Meir ben Rabbi Yitzhak de Worms, en Allemagne, en Rhénanie. C'est un très long poème en araméen qui est une louange à Dieu, une louange à la Torah, une louange à Israël, et qui est lu juste avant que l'on ne commence la lecture de la Torah. C'est très rare, c'est un poème en araméen qui développe toutes ces idées. Et on va y en écouter très brièvement l'intonation qui est très particulière, et on retrouve encore l'idée de l'intonation particulière qui marque profondément les poèmes liturgiques.
Alors on l'écoute par Leib Levalman.
Hab ich nicht geworden, kol Yisroel chaveirim, lo yeluchem Elohim acherim. Ihr sollt nicht dienen zu frehem de Gete, weil ihr werdet sein auf Zuris, und ihr werdet nicht hoffen keine Rette.
Juste un bref extrait donc de ces Hakdumos chantés ici par Leib Levalman. Alors dernier aspect donc de cette fête de Shavuot, comme on a parlé des moissons, c'est à travers les chants de l'actuel Israël, je crois.
Oui, je précise pour Hakdumos, c'était pas les paroles du poème, c'était des paroles en yiddish, mais l'intonation c'était celle très particulière de Hakdumos. En effet, comme c'est la fête considérée comme la fête des prémices, la fête Chag HaKatzir, la fête des moissons, en Israël, les kibboutzim se sont emparés de la symbolique de Shavuot pour faire une véritable, à ce moment-là, au moment du mois de juin, au moment de Sivan, de faire des fêtes agricoles, des fêtes très folkloriques, dont j'ai vu une fois une exposition et des films très nombreux. On voit tout le monde sort sur la grande pelouse du kibboutz, on fait des chars tirés par des bœufs avec tous les produits, hein, tous les produits agricoles, comme la fête de la moisson, comme la fête champêtre. On est très loin de la tradition juive, malgré tout, et c'est peut-être une fête plutôt de kibboutz, mais elle avait son charme et il y avait un très grand folklore, des chansons, on va en écouter.
Alors on en écoute tout de suite, Salenu al Ktefenu.
Saleinu al ktefeinu, rasheinu aturim, mikzot haaretz banu, hevenu bikurim. Mihuda, Mihuda vehashomron, min haemek vehagalil, anu derech lanu, bikurim mitanu, hach, hach, hach,
c'est sur ces quelques notes de ce chant folklorique Salenu El Kaftenu, avec des paniers sur nos épaules, nous apportons les prémices que nous allons bientôt terminer cette émission. Juste quelques mots de conclusion, mais vraiment très rapide, Jacques Arnold.
Bien, on aurait pu en effet penser que la fête de Shavuot, qui ne comporte qu'assez peu de coutumes et de prescriptions particulières, donc pas de mitzvot réel à accomplir, pourrait présenter également un déficit sur le plan des airs, qui permettrait de, nous avons quand même pu en montrer des aspects particuliers qui caractérisent cette fête, surtout dans ses prières, ses musiques et ses chants. Donc avec cette dimension messianique du huitième temps, celui du dépassement qui nous sort de ce qui est limité, peut-être que Shavuot peut être considéré comme la fête qui nous permet d'accéder à la huitième note, à la huitième corde de la harpe, à Nikinor. C'est pour cela qu'on a eu il y a quelques jours la réunification de Jérusalem, le 28 Iyar. À Nikinor, je suis une harpe, et c'est l'espoir, c'est la dimension huitième.
Yerushalayim shel zahav veshel nechoshet veshel or halo lechol shirayim ani kinor Yerushalayim shel zahav veshel nechoshet veshel or halo lechol shirayim ani
Ani Kinor, je suis d'Arp, Yerushalayim, Shelzav, on a tous reconnu la version historique de Naomi Shimer. Jacques Arnold, merci infiniment pour ces explications sur la fête et les musiques de Shavuot. Nous continuerons notre cycle sur les musiques de fête dans un avenir proche. D'ici là, je vous souhaite bien sûr et à tous nos auditrices et auditeurs une bonne fête de Shavuot. N'oubliez pas que si vous souhaitez réécouter cette émission ainsi que toutes les précédentes, vous les trouverez en ligne sur le site de l'Institut européen des musiques juives, www.iemj.org, ainsi que bien sûr sur judaïquefm.com dans la rubrique podcast. Au micro, Hervé Roten, David à la technique. L'Institut européen des musiques juives a été heureux de vous présenter cette émission et vous souhaite une agréable fin de soirée en musique, bien sûr.
Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Roten sur Judaïque FM.
I'm the sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me.